Les questions de Sophie. Voici Sophie Stanquet.
Mesdames, messieurs, bienvenue aux questions de Sophie, lundi 17 novembre. Eh bien, vous allez rigoler. Parce que nous faisons une émission aujourd'hui sur les nouvelles technologies, sont-elles accessibles à tous? Et depuis ce matin, le canal M n'a plus d'Internet. Alors, le choix du sujet est absolument superbe, parce qu'on se sent vraiment comme au Moyen-Âge, et c'est tombé cette journée-là où on se posait des questions, mais ça ne va pas nous empêcher de fonctionner. La seule différence pour la première, nous sommes en direct en ce moment, mais pour la première diffusion de l'émission, on a plusieurs façons de nous rejoindre, de nous écouter. On va oublier Internet pour aujourd'hui, enfin pour maintenant. Je vous donne toutes les autres possibilités. Bell, 13, 94. 9, Cablevision 991, CCAP 55, Cogeco 955, De Courcel, alors c'est le 972, ensuite Rogers, on parle du 59, Show Direct, Sogetel, 972, Telbec 990. Ensuite, on peut nous écouter par TELUS en faisant le 895 et Vidéotron illico. C'est le 577. Alors voilà toutes les façons pour nous écouter pour l'émission. On a vraiment une superbe émission avec des invités qui vont vous dire plein de choses à ce sujet, parce que c'est ce qu'on se pose comme question. Est-ce que c'est accessible aujourd'hui à tous? Est-ce qu'il y a une équité au niveau des personnes âgées, au niveau des générations? Comment ça se passe chez vous? Est-ce qu'on n'a pas le choix? Alors, on mettra à la table avec Pierre Pelladeau. Il est chercheur associé au CEFRIO et il est aussi blogueur au Journal de Montréal. Jérôme Maurice, les compagnons de Montréal, va être là pour nous parler des ateliers qu'il fait pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle intéressante. Ensuite, nous irons avec Olga Saraguero. Elle est membre du comité informatique pour tous de l'organisme Parole d'exclus. Par la suite, il y aura Magda Fusaro, professeure chercheur à l'UQAM et chercheur au CEFRIO également. Et notre coup de chapeau, Jonathan Trudel, journaliste à l'actualité, et qui va nous parler de son papier qu'il a fait, lui, pour sa grand-mère. C'est extrêmement touchant. Tout ça à l'émission Les questions de Sophie. On a tout de même réussi à trouver un ordinateur et Internet pour les personnes qui travaillent avec nous sur leur portable, leur téléphone. Alors, vous pouvez nous écrire et Claudia Benoît va lire les commentaires. D'ailleurs, moi, j'en ai des personnels. J'ai amené mon téléphone en studio pour lire les commentaires pendant l'émission. Ça ne change rien, mesdames, messieurs. Il n'y a aucun problème. On se débrouille. Alors, notre premier invité, c'est Pierre Pelladeau. Il est chercheur associé au CEFRIO. Bonjour, Monsieur Pelladeau.
Oui, bonjour. Je suis aussi chercheur invité chez Communautique, là, justement une organisation là, qui vise à l'appropriation citoyenne des technologies de l'information et de l'information elle-même.
Alors, donc, vous êtes tout à fait la personne désignée pour nous dire comment on est avec les nouvelles technologies. Est-ce que c'est équitable? Est-ce que il y a une exclusion du numérique?
Oui, ben il faut comprendre que c'est un petit peu historique. Là, il y a trois grandes périodes du numérique là, liées à Internet. La première, c'est 1980 au milieu des années 90, autour de 1995. À cette époque-là, Internet, c'était un club très, très privé. Il n'y avait que les gens d'université, quelques organisations publiques, quelques entreprises qui étaient là. Mm-hmm. Donc, on parlait pas d'exclusion à cette époque-là. On parle d'exclusion à partir de la période suivante, qui est de milieu des années 90, une quinzaine d'années jusqu'à 2010 à peu près, qui est la période de la démocratisation d'Internet et du Web, entre autres grâce à des furteurs comme Netscape, Internet Explorer, là, qui n'oblige pas à connaître le code là, pour pouvoir communiquer d'une part, et le fait que pour la première fois, ça sortait du milieu des universités vers des entreprises de télécommunications comme Bell, Vidéotron et autres, qui là commençaient à offrir de l'accès à Internet à relativement bas prix et avec des vitesses intéressantes. Et c'est là qu'on a commencé à parler d'exclusion numérique parce que c'était le lieu où s'informer, socialiser, s'organiser, tout ça. Mm-hmm. Et au fur et à mesure que ça se développait, et même qu'on pouvait être consommateur et même citoyen. Et là, c'est là qu'on a constaté que là, il y avait une société qui fonctionnait à deux vitesses. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui étaient reliés aux autres n'importe où ailleurs sur la planète à moins d'une seconde de distance.
Oui.
Et les autres qui restaient à plusieurs heures, plusieurs jours, ou même pas du tout, là, parce qu'ils ne pouvaient pas communiquer avec les autres. Je vais prendre un exemple trivial. Là, c'est quand à un moment donné, les émissions de télé disaient pour participer à un concours, au lieu de « écrivez-nous », ou téléphonez-nous, ils se mettaient à dire, ben écoutez, venez sur notre page Facebook. Ben là, voilà. Là, ça voulait dire qu'il y avait plein de gens qui, n'ayant pas accès à Internet, accès à l'ordinateur ou savaient pas comment s'en servir, et ben là, maintenant, t'es de plus en plus exclu. Fait que ça, c'est la période de 15 années où on a beaucoup parlé d'exclusion numérique, ce qui n'est pas tout à fait réglé. Et là, on rentre dans une autre période. Depuis les années 2010, qui est avec l'Internet des objets, où là, c'est l'encerclement numérique.
Mm-hmm.
C'est le fait qu'on n'aura pas le choix de se brancher.
Mm-hmm.
Là, maintenant, nos téléphones, nos télévisions, nos radios, nos appareils photos, nos jeux électroniques, même les automobiles, même présentement, il y a déjà des pilules qui sont commercialisées aux États-Unis qui se branchent à Internet. Bientôt, on va avoir des ampoules lumineuses là, pour s'éclairer. Là. Nos ampoules vont se brancher à Internet, ils vont se brancher à nos appareils qui sont branchés à Internet. Donc, là, c'est une autre période. Là, c'est l'encerclement. Là, c'est une question de démocratisation. C'est une question d'avoir du contrôle. Et là, c'est une période de technocratisation. C'est-à-dire, il y a des gens qui décident pour nous comment on interagit avec les autres. Et là, c'est la quasi-totalité de la population qui est exclue parce qu'il y a certaines personnes, certains ingénieurs, certaines firmes qui décident pour nous. Je vais prendre un autre exemple très trivial, encore Facebook. Auparavant, j'avais une liste d'envoi de courriel, tous les gens à qui j'envoyais mon courriel le recevaient. Facebook, aujourd'hui, filtre les contenus de nos fils de nouvelles. Si je fais un statut, il va décider, si j'ai beaucoup d'amis, il va décider Facebook va décider pour moi de l'envoyer au tiers ou à la moitié de mes amis et vice-versa. C'est-à-dire les gens qui vont faire des statuts, même si je suis abonné à leur compte, je vais peut-être pas nécessairement recevoir chose, puis même Facebook va me faire des suggestions qui n'ont aucun rapport avec les gens avec qui je suis branché. Donc, on rentre dans une autre période où là, on est...
De contrôle, en fait, finalement.
Exclu des décisions qui affectent notre façon d'être dans le monde, de faire société ensemble.
Ouais, est-ce qu'on n'est pas plutôt en train de se faire contrôler que de contrôler la machine à ce moment-là? Si
Oui, tout à fait. C'est exactement la nouvelle période là, dans laquelle on entre.
Ouais.
Quand on parle d'exclusion numérique, ben là, c'est ça, on parlait d'exclusion liée aux moyens financiers, à l'accès à Internet, souvent en région, là, puis c'est encore le cas aujourd'hui au Québec.
Ouais.
Il y a encore des secteurs qui n'ont pas Internet haute vitesse. Pouvoir se payer, utiliser un ordinateur, lié à la littératie au sens large, là, c'est-à-dire non seulement savoir lire et écrire, mais pouvoir décoder des textes, des règles, des choses, il y a ça. Il y a aussi l'accessibilité des contenus, pour des raisons de... C'est ça, dans le sens que les contenus sont accessibles à des gens qui ont des problèmes visuels, qui ont des problèmes de lire ou comprendre des textes, d'entendre du son, ou même qu'ils n'ont pas les bons... par exemple, Vie et Voix, Canal M, si on n'a pas la bonne version de Windows Media Player ou de QuickTime, avec le bon codec, ben on pourra pas lire.
C'est ça, exact.
Donc, il y a toutes sortes de contraintes comme ça.
Au niveau de...
Plus des questions linguistiques, évidemment.
Au niveau de l'éducation aussi, je veux dire, les cours d'université, si on prend l'université en tant que telle, c'est plus possible de remettre un devoir si on n'est pas sur Internet. C'est plus possible aussi toutes les références. Même les communications avec les profs se font comme ça. C'est extrêmement difficile. Quelqu'un qui est exclu, qui n'est pas branché, ne pourra même pas étudier et avoir les critères qu'il faut s'il n'est pas branché.
C'est ça. Là, on parle des conséquences, c'est-à-dire,
ouais.
C'est ça. Effectivement, pour étudier, pour le travail, pour la vie sociale, on peut parler d'université, mais on peut parler même à l'école, ou primaire,
ouais.
Primaire, secondaire, ben, si toute la classe est sur Facebook et discute et s'organise et socialise sur Facebook et moi, j'ai pas accès à Facebook pour une raison ou une autre, mais là, je ne fais plus partie de la classe, là, comme telle.
Mm-hmm.
C'est la participation citoyenne. Il faut s'en rendre, c'est ça. Les êtres humains sont des animaux sociaux. Et maintenant, faire société, ça se fait à travers des interfaces numériques.
Mm-hmm.
Et donc, l'enjeu important de l'exclusion, c'est le fait, c'est que on n'est plus dans la même société que les autres. On est dans, il y a des gens qui sont dans une société à, comme je dis, à moins d'une seconde de distance les uns des autres à travers mm-hmm. toute la planète. Et puis il y a les autres là qui eux doivent procéder par d'autres moyens, puis qui sont dans un temps beaucoup plus long, des interactions beaucoup plus longues.
Dernière question et non la moindre, qu'en est-il des exclus volontaires? Parce qu'on n'en parle pas de ces gens qui sont bons, hein, parce que qui sont bons à naviguer sur Internet et tout, puis qu'à un moment donné, ils se réveillent le matin et disent « Moi, je n'ai plus envie d'aller dans cette frénésie, d'être toujours avoir un hochet électronique ». Est-ce qu'on en parle? Est-ce que ces exclus volontaires existent? Est-ce qu'ils sont...
Oui, ça, ils existent.
Ouais.
J'en connais personnellement. Là. Il y a mm-hmm. mon père qui était branché sur Internet et qui avait un ordinateur puis qui a décidé d'abandonner tout ça.
Mm-hmm.
Il qui se porte très bien là-dessus. D'autant que s'il veut vraiment, il y a vraiment obligatoire, il y a ses fils pour, pour faire le travail, pour faire les contacts.
Ah, oui.
ou des amis ou des voisins. On n'inclut pas ça comme de l'exclusion numérique parce
non,
que
non, tout à fait.
C'est volontaire,
c'est
pratique.
C'est
mais
ça
existe, puis il y a des gens qui le font soit par période, c'est-à-dire qu'ils se donnent des moments de débranchement.
Mm-hmm.
De plus en plus, on voit ça se développer parce que on se rend compte aussi du côté addictif du branchement Internet. On se rend compte que c'est à peu près aussi addictif que pour certaines personnes que, par exemple, de la cocaïne, par exemple, parce que ça c'est les mêmes neurotransmetteurs là, de gratification là, qui sont générés dans le cerveau. Donc, il y a des gens qui soient volontairement, complètement, ou par période, soit ou pour vouloir être plus productif, ou qui font des choix, parce qu'on ne peut pas être non plus être partout. Ça, c'est le...
C'est
Internet, comme disait un collègue, on va boire à la rivière. On ne va pas aller boire la rivière.
Mm-hmm,
donc,
mm-hmm.
Tout ce flot d'informations-là,
oui.
À un moment donné, là, il faut faire le tri puis accepter qu'on ne peut pas être branché puis tout savoir non plus. Donc, ça, mais ce n'est pas un problème social.
Non.
Ce sont des choix individuels.
Merci beaucoup, M. Pilado.
C'est moi qui vous remercie.
Au revoir.
Bonjour.
Josefina están prontos a ligar, pero Laura la vecina los ha visto desertar. Juan Roja renuncia y lo hace publicar. Leonora, su esposa, pronto lo va a borrar. Amanda y Miranda acaban de rastrear. Alina, su amiga, que les dejó de hablar. Tantean, nos vean, no hay nada que indagar.
Es fácil, muy fácil,
solo priman pokear. No te metas a mi Facebook. No te metas por favor. Cada vez que tengo un inbox me provoca por el close. No te metas a mi Facebook. No te metas por favor. Cuando escribas melodrama no me lo hagas por el wall. 120
amigos, te relacionas con 10.
90 desconocidos, más 60 friend requests.
Te buscan, rebuscan, pronto te van a ver. Punticos, duditos, a
cuestionle a la red. 200 eventos a los que debes ir. Aceptas a todos aunque no quieras ir. Tu vida es difícil, tienes que decidir.
Aplica la regla,
ponle a todos maybe. No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cada vez que tengo un inbox me provoca por el close, close. No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cuando escribas melodramas no me lo hagas por el wall, 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 wall.
Ladies,
no me lo hagas por el wall.
And you know, it's all over the country. And
no me lo hagas por el wall.
Over 5 million.
No me lo hagas por el wall.
It's a huge number of people.
Provoca por el wall.
Alors, ça fait toujours plaisir de vous lire. Donc, sur Canal M, vous nous écrivez, pas de problème. Alors, je vous lis Dark Jedi qui répond à la question « Est-ce que les nouvelles technologies sont accessibles à tous ?» Il nous dit non. Dans les centres de personnes âgées, il y a encore une douche, un bain par semaine. Et ensuite, on a M. Wallet qui dit évidemment que non, ne fût-ce que pour le prix. Alors, voilà, c'est Claudia Benoît qui est en studio et qui va prendre donc tout vos courriels, vos... Enfin, vos commentaires, évidemment, jusqu'à 13h, parce qu'après, on passe à un autre sujet, comme on dit. Alors, on parlait de l'inclusion numérique, et il y en a de l'inclusion numérique, surtout c'est les personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle. Il est en studio avec nous, Jérôme Maurice, des Compagnons de Montréal, pour nous parler de ça. Bonjour, Monsieur Maurice.
Bonjour, Madame.
Ça va bien?
Ça va très bien, merci.
Oui, quand je dis qu'il y en a de l'inclusion, c'est... Comment ça se passe au niveau de la technologie?
Alors, quelques mots peut-être pour vous présenter Compagnons de Montréal.
Oui, tout à fait.
On est un organisme communautaire qui travaille avec des personnes déficientes intellectuelles adultes. Et ça fait maintenant presque 55 ans que l'organisme existe. Il y a à peu près 4 ans de ça, la directrice générale de l'époque m'avait fait part du fait qu'on avait beaucoup de services qui s'adressaient aux personnes déficientes intellectuelles, mais qu'il n'existait que très très peu, ou voire pas du tout à Montréal, de services technologiques pour les personnes déficientes intellectuelles. Et donc, on a regardé un petit peu ce qui existait partout ailleurs au Canada, et on a décidé de demander une subvention pour permettre un projet bien particulier qui était l'introduction des technologies pour les personnes déficientes intellectuelles, pour les personnes qui avaient toutes sortes de limitations. Donc, on a fait des recherches, on a été accompagné en cela par un organisme qui s'appelle Communautique, un organisme montréalais, et on a déposé une demande de subvention pour un projet vraiment très, très particulier qui était axé vers les personnes ayant toutes sortes de limitations.
Bon.
Ce projet-là était également une occasion pour nous de proposer l'inclusion de notre clientèle à toute la communauté. Pour faire l'histoire très, très courte, on a eu une très, très belle subvention qui nous a permis de mettre en place ce qu'on a appelé un café Internet. L'idée du café, ce n'était pas ce qu'on peut avoir ailleurs, c'était vraiment un lieu d'inclusion avec des ordinateurs vraiment spécifiques, avec des écrans tactiles, avec des logiciels particuliers. On a mis en place un partenariat avec une société montréalaise qui s'appelle Oralis, qui nous a proposé des logiciels sur mesure. Et au final, nous avions un outil qui permettait à des personnes déficientes intellectuelles d'avoir accès à la technologie qui, pour beaucoup d'entre elles, n'avaient jamais touché un ordinateur.
C'est ça, parce qu'avant de parler d'inclusion, il y a eu exclusion forcément, et ça ne fait pas longtemps, votre histoire date de 4 ans.
Absolument.
Parlez-moi de comment ça se passait, parce que finalement, vous avez trouvé une clientèle et des besoins immenses. Mais ça se passait comment? Est-ce que les gens étaient laissés à eux-mêmes? Ils ne voulaient pas y toucher parce que c'était trop difficile?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, on a eu une très, très, très grande notoriété. Très rapidement, il y avait beaucoup de gens qui voulaient s'inscrire. Donc, la première chose, c'est qu'on s'est dit, OK, on répond à un besoin, c'est certain.
Oui.
Après, il y a eu probablement pour certaines des personnes qui venaient, une crainte, parce que beaucoup ne savent pas lire ou très, très peu lire. Et donc, utiliser un ordinateur quand on a du mal à écrire ou à lire, ben c'est compliqué. Mais très vite, on s'est rendu compte que toute la technologie qui était là n'était qu'un support. Ce qui comptait vraiment, c'était l'accompagnement de la part des personnes, des intervenants spécialisés qui ont accompagné les gens dans l'apprentissage. Et donc, très, très, très vite, on s'est aperçu que ce qui importait, c'était cet accompagnement un pour un qui permettait, de façon très limitée et avec des répétitions régulières, mm-hmm. d'apprendre les choses. Et mm-hmm. on s'est donc aperçu là que des gens qui pouvaient se dire trop éloignés des technologies d'information dans les faits étaient vraiment capables de découvrir des choses et d'améliorer leur vie, tout simplement.
Mais trop éloignés parce qu'on les éloignait, parce que au niveau de la société, on ne s'en occupait pas, ou trop éloignés parce qu'il y avait des peurs ou...
Je pense que c'est un peu tout ça en même temps. Probablement que certaines personnes, parce qu'elles n'y étaient jamais, elles n'avaient jamais touché aux technologies, se disaient qu'elles n'étaient peut-être pas capables. D'autres n'avaient peut-être pas forcément l'envie, parce que vous savez, qu'est-ce qui est là au début ? Est-ce que c'est le besoin ou est-ce que c'est l'offre qui fait en sorte qu'on a envie de s'y intéresser ? Toujours est-il que les gens qui sont venus au café Internet de Compagnons de Montréal, très très vite se sont aperçus que c'était quelque chose... premièrement de nouveau, mais de très très important dans leur vie. Mmh. Ce sont pour beaucoup d'entre elles une pratique qui a juste changé leur vie, vraiment.
Est-ce que ça brise aussi cette solitude, le fait de pouvoir aller à Paris au musée le soir, d'aller visiter des tas de choses, de se faire des nouveaux amis? Il y a aussi ça, j'imagine.
Absolument. Alors, pour beaucoup d'entre elles, vous savez, on a des résidences à Compagnons de Montréal, entre autres activités, on a des résidences. Et on s'est aperçu que suite à des cours au Café Internet, certains de nos résidents qui vivent donc avec nous, se retrouver l'un en face de l'autre, chacun sur leur ordinateur, mm-hmm. et essayer Skype entre eux. Ils étaient à 2 mètres de distance, mais ils essayaient Skype entre eux pour permettre justement,
bravo.
Pourquoi pas, d'utiliser ça avec leur famille après.
Parce que souvent, c'est pas facile, les personnes à mobilité réduite, de se rencontrer. Bon, là, on commence, la neige commence, c'est une demi-heure de plus, puis c'est compliqué. Donc, avoir
tout
Skype, c'est chouette de se dire bonjour, comment ça va ce matin,
de
se voir finalement. Alors ça, c'est vraiment, ça brise la solitude.
Tout à fait. Puis des choses aussi basiques et simples pour vous et moi que d'envoyer un courriel, par exemple. On a des personnes qui ne savaient pas lire forcément, ne savaient pas écrire, et pour qui le fait d'avoir des logiciels spécifiques qui leur permettaient d'écrire des phrases très simples, mais qu'ils choisissaient d'écrire, que personne d'autre n'écrivait pour eux, ça a tout simplement changé leur vie. Et donc aujourd'hui encore, même très longtemps après, je reçois régulièrement des courriels qui me sont envoyés par des personnes en disant « Bonjour, c'est Georges, comment ça va ?»
Et, mais ça doit vous toucher.
Ça fait très très plaisir, absolument.
De voir qu'il y a un pas de géant qui a été fait. Au niveau, je sais que vous avez au début de l'entrevue, vous avez parlé des gouvernements. Est-ce qu'il y a une écoute à ce niveau-là dès que vous avez parlé du projet? Est-ce que vous voyez qu'ils veulent donner plus d'argent que...
Alors, ce qu'on peut dire par rapport à ça, c'est que la subvention qu'on a eue, qui était une subvention relativement importante, s'inscrivait dans le programme, un des programmes gouvernementaux du gouvernement du Québec, qui malheureusement a été aboli l'année suivant l'attribution de la subvention. Donc logiquement, c'était une subvention qui aurait dû être pluriannuelle pour nous. On a quand même eu plus de 150 000 $, donc c'était une grosse subvention, mais qui devait s'étaler sur le temps. Malheureusement, mm-hmm. ça n'a pas été le cas. Ce n'est pas le projet de Compagnons de Montréal qui n'a pas été retenu, c'est tout simplement le programme qui a été aboli. Mm. Et j'avoue que après, ça a été très compliqué pour nous d'avoir l'écoute du gouvernement pour dire on a besoin de financement pour ce programme-là.
En ce moment, vous desservez combien de personnes, votre clientèle?
Alors, Compagnons de Montréal, d'une façon générale, ce sont plusieurs milliers de personnes qui sont desservies. L'activité Café Internet telle que je vous l'ai présentée aujourd'hui n'existe plus, justement, faute de financement. On a eu beaucoup, beaucoup de mal à financer cette activité. Par contre, on continue à proposer des formations pour des personnes déficientes intellectuelles. Mmh. On a gardé, en fait, l'infrastructure. Mais ces formations-là sont financées grâce à un partenariat avec la CSDM, avec le Centre de ressources éducatives et pédagogiques de la CSDM. Et on a très, très peu de places disponibles. Donc aujourd'hui, toutes les places sont prises. On ne peut pas accueillir de personnes supplémentaires, malheureusement.
Quand ils vont dans les écoles, de la petite à la grande université, comment ça se passe? Parce que c'est pas facile. Vous parliez de logiciels, des nouveaux logiciels, des choses où l'écriture est plus grande, où les choses sont plus faciles. Est-ce qu'il y a des batailles là ou c'est acquis là?
Je pense qu'il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on doit toujours se battre quand on a ce type de limitation. Mais ceci dit, c'est moins, on l'a vu, nous, une question de technologie, parce que les technologies existent. Il y a même de plus en plus de technologies gratuites qui existent. Et je pense que la problématique pour cette clientèle particulière,
oui.
c'est plus l'accompagnement. On s'aperçoit que c'est très, très important d'avoir une personne qui vient nous expliquer comment utiliser tel logiciel, comment utiliser tel outil gratuit sur Internet. c'est beaucoup plus important d'avoir cet accompagnement-là.
Et parlez-moi justement de ces accompagnateurs, leur profil, comment ils sont, la patience qu'ils ont, la passion aussi qu'ils ont.
Alors, au tout début, on a privilégié des personnes qui avaient un profil plutôt technique, en se disant, pour parler
d'informatique. Des whiz, comme on dit, là.
Oui, c'est ça. Et en fait, très, très vite, ouais. On s'est aperçu que c'est pas ça dont on avait besoin. On a plus besoin de personnes qui sont plus des intervenants spécialisés et qui ont, ne serait-ce qu'un intérêt pour la technologie. Je pense que ça suffit dans un premier temps.
En second lieu, finalement.
Absolument, oui, tout à fait.
Une ouverture, une patience, une envie de faire découvrir au lieu de montrer ce qu'il sait faire, quoi.
Absolument. Vous savez, les personnes avec lesquelles on travaille, parmi les projets sur lesquels ils travaillaient, ce qui a eu beaucoup, beaucoup d'accueil, c'est le fait de préparer leurs vacances. Typiquement, j'ai envie d'aller à Las Vegas l'année prochaine avec ma famille. Je vais proposer à ma famille un diaporama de ce qu'on pourrait aller visiter à Las Vegas l'année prochaine. Et ce travail-là de recherche des photos, de recherche de ce qu'on pourrait faire, c'est un projet qui peut prendre plusieurs semaines pour eux, mais qui est tellement valorisant ensuite quand on l'échange avec notre famille dans un courriel, par exemple, ou des choses comme ça.
Ah, parce que c'est touche au rêve, là.
Absolument.
Et c'est concret, quoi.
Et en même temps, c'est pas techniquement pas très compliqué à faire. C'est plus une question, encore une fois, d'accompagnement que de technologie.
En terminant, comment vous avez trouvé que vous avez changé leur vie? Vous m'avez parlé de ce courriel très touchant.
Écoutez, il y a un certain nombre de personnes. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des ordinateurs mis à disposition dans le cadre de ce projet. Un des indicateurs de réussite de notre projet, de notre programme, a été le fait de voir beaucoup d'élèves s'acheter des ordinateurs, s'acheter leur propre ordinateur. Donc, ça veut dire que, tout simplement, ça a changé leur vie, parce que maintenant, ils utilisent la technologie.
Et ils sont confortables.
Et ils sont tout à fait confortables. Voilà. Alors, c'est sûr qu'il faut des aménagements, c'est toujours pareil, mais je pense que ça a tout de même changé leur façon de voir les choses d'une certaine façon. Ce que je peux vous dire également, c'est qu'on a eu le cas de certaines personnes qui venaient au café Internet en n'ayant pas la capacité de lire, pas la capacité d'écrire.
Oui, c'est ce que vous disiez, ça.
Et que réellement, ça a tout simplement changé leur vie parce qu'ils ont décidé à partir de là de vouloir retourner à l'école et de vouloir apprendre à lire ou à écrire.
C'est formidable, ça.
C'est absolument génial.
C'est génial. Merci beaucoup. Merci, Jérôme Maurice.
Merci à vous.
Merci pour ce que vous faites. Publicitaire, mesdames, messieurs, on revient tout de suite après les questions de Sophie. Aujourd'hui, est-ce que les nouvelles technologies sont accessibles à tous?
Vous écoutez les questions de Sophie avec Sophie Stanquet.
Alors, on en a parlé depuis le début de l'émission. Et d'ailleurs, vos commentaires vont dans ce sens-là, mesdames, messieurs. L'inéquité au niveau du numérique, c'est vrai, c'est palpable, c'est là. Et pour nous parler de ce sujet, la fracture numérique chez les personnes peu fortunées ou peu scolarisées, Olga Saraguero, elle est avec nous en studio. Elle est membre du comité informatique pour tous de l'organisme Parole d'exclus. Bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, madame Saraguero. Écoutez, quand je dis que c'est vraiment difficile, c'est inéquitable à ce niveau-là, vous le vivez avec votre organisme. Dites-moi, quand est-ce qu'il a été fondé, cet organisme?
Je représente concrètement le groupe ou le comité informatique pour tous, lequel a été créé en mars 2013, à la suite de l'information Parole d'exclus, c'est un organisme communautaire qui offrait des cours en informatique. D'accord. pour deux quartiers. Et donc, en octobre 2012, les responsables de paroles d'exclus, on était obligés d'informer aux animatrices puis aux participants de ces cours-là l'arrêt de la formation. Donc, indignés par la nouvelle, certains d'entre eux, donc les animatrices, les étudiants, ont décidé de se mobiliser pour défendre le droit à l'accès à l'informatique. Donc, nous sommes un comité informatique pour tous qui est composé d'animatrices, des étudiants, des professeurs d'informatique, des professeurs universitaires qui sont à la retraite, des étudiants universitaires qui sont sensibles à cette cause et certaines personnes qui de près vivent cette réalité d'une façon vraiment très dure, que ce soit à cause de l'inaccessibilité pour les études. La recherche d'emploi aussi, elle est touchée parce que là, maintenant, madame, vous envoyez pas par courrier ou personnellement les curriculum vitae. Tout se fait au niveau de la recherche d'emploi par l'informatique.
Alors, si je comprends bien, vous êtes mises ensemble pour pallier à ça.
Exactement.
Et vous avez dit un mot que j'aime beaucoup. Vous étiez indignée et vous avez raison de l'être parce qu'il y a des gens qui sont exclus, il y a des gens qui ne peuvent pas étudier, qui ne peuvent pas travailler parce qu'ils n'ont pas ces outils-là, parce que maintenant, ce sont des outils nécessaires. Et donc, c'est pour ça que vous êtes mises ensemble.
Exactement.
Est-ce que la grogne se faisait aussi sentir? Est-ce que, justement, ces gens-là vous disaient « Mais je peux plus fonctionner, j'arrive pas à me payer Internet, à me payer un ordinateur et je suis démunie. » Est-ce que les gens vous le disaient sans arrêt?
Madame, il faut juste aller dans les salles où certains organismes communautaires offrent, où j'y vais, c'est tout près du métro Pinot, un organisme communautaire qui offre, c'est subventionné, le professeur par Emploi Québec. Juste s'asseoir là-bas et voir combien de dames et de monsieur qui pleurent parce qu'ils ne peuvent pas, ils ne savent pas envoyer le curriculum vitae. Il y a d'autres étudiants que des personnes qui aimeraient avoir un projet d'études, mais à cause de l'ordinateur, mais ils ne peuvent pas, ils ont peur, ils ne se sentent pas en sécurité, faute de ne pas avoir la connaissance des organismes qui donnent la formation, mais des fois, ils ont des ordinateurs à la maison, mais ils ont des souhaits. Donc, il faut aussi des techniciens pour les expliquer que ça ne fonctionne plus, que le logiciel, c'est déjà trop vu, qu'il est infesté de virus, etc. Donc, vous voyez, la connaissance technique de l'outil en tant que tel n'est pas donnée pour les personnes, donc ils deviennent aussi un autre obstacle.
Et puis, ça change tous les jours, je veux dire, donc, ça change énormément.
Exactement.
Là. On est toujours en retard dans le numérique.
Exactement. Ouais. Donc, vous voyez, nous, dans les rencontres, contre avec des gens qui vivent la situation en tant que telle, on s'est rendu compte que ce n'est pas seulement le facteur économique ou peu scolarisé ou analphabète ou handicapé social, ce n'est pas juste ça le problème. Le problème à la base, c'est que le système intelligent et numérique est devenu un facteur déterminant dans l'exclusion. C'est juste une petite population qui n'arrive pas à maîtriser l'informatique faute de manque d'organismes adaptés à cette réalité. C'est-à-dire des personnes qui travaillent, qui ont des enfants, mais qui ont des petits trous de temps pour aller chercher l'informatique.
Oui.
Donc, s'ils sont exclus automatiquement des horaires universitaires, cégep ou commissions scolaires, mais s'il y avait les commissions scolaires qui offrent des cours adaptés à leurs besoins, adaptés à leur disponibilité de temps, puis adaptés aussi à leur budget, voyez, tout changerait. Mais le problème, c'est que la volonté politique du gouvernement fédéral provincial et maintenant municipal à cause du gros projet de devenir Montréal une ville intelligente et numérique, mais s'il n'a pas...
Mais ils ne s'occupent pas de leurs clients.
C'est ça. S'il n'a pas une politique une structure cohérente qui offre des programmes, la formation permanente. Madame, il faut qu'il soit durable parce que sinon le problème
exact.
Continue.
Et tout à fait. Et vous me parlez de ces gens-là. Parlez-moi d'exclusion. Bon, il y a une clientèle. On a juste à aller se promener dans les bibliothèques.
Hein. Exactement.
Dans la bibliothèque, là, moi, je suis un rat de bibliothèque. Je peux vous dire que les gens, le matin, ils ne font pas la queue pour aller chercher des livres. Ils vont à l'ordinateur parce qu'ils vont
Exactement.
Ils ne l'ont pas à la maison. Ils ne l'ont pas et ils retrouvent des recherches. Après, ils vont se lever pour aller chercher des livres. Après avoir vu la référence ou lu sur l'auteur. Et ça, juste à avoir... Alors là, vous me parlez d'une clientèle qui est abandonnée, qui vous vous débrouillez entre vous.
Exactement.
Il
n'y
a pas, au niveau du politique, on voit qu'on est mal servi en ce moment et il faut réveiller. Parlez-moi du regard de la société, du regard des clients, clientes que vous avez. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Par exemple, s'ils ne sont pas capables, s'ils n'ont pas les outils nécessaires, est-ce qu'ils doivent vivre avec ce regard d'exclu?
Mais le fait que nous, on se mobilise avec des programmes, des projets concrets, mettons une assemblée publique.
Oui.
On invite ces gens-là pour qu'ils viennent exprimer leur situation dans ses mots, dans sa façon de dire, de le vivre. Mais là, en écoutant d'autres expériences, là, ils réalisent qu'il n'est pas tout seul.
Ouais.
Donc, le fait, tu vois, d'avoir des responsables dans chacune des quartiers fait en sorte qu'on les sort de l'isolement, on les déculpabilise, et puis on lui propose des façons de se responsabiliser de cette problématique, donc de devenir membre de nos différents groupes, parce qu'on travaille avec d'autres groupes partenaires, pour aller vraiment lutter, puis exprimer, puis dire, expliquer aux responsables, aux décideurs politiques de la situation.
Parce qu'ils sont laissés à eux-mêmes, finalement.
Mais
avec vous, non, mais je veux dire, dans la société, ils se sentent exclus, et puis ils sont laissés à eux-mêmes.
Exclus, puis abandonnés, sans espoir. Parce qu'ils n'ont pas, à cause de l'isolement, puis à cause de cette coupure qu'il y a, ils n'ont pas nécessairement l'information, parce qu'il y a quand même des organismes comme le nôtre, Parole d'Escu, communautaire, qui offrent des cours, puis d'autres organismes aussi communautaires. Mais ils ne savent pas.
Et vous l'avez dit en début d'entrevue, comment on fait pour trouver du travail? Maintenant, toutes les annonces sont sur Internet.
Bien.
Et
au
niveau de l'éducation aussi.
Bien.
Donc, en partant, en retard au niveau des études, et puis il ne peut même pas se trouver, ou elle ne peut pas se trouver du travail.
Chercher l'emploi.
Parce que le temps d'aller porter son CV à l'ancien temps, d'ailleurs, il n'y aura même plus de poste. Hein.
Exactement. Mais pour garder...
Le poste est déjà comblé.
Oui. Pour garder l'emploi, je connais présentement des personnes qui ont été exclues de l'emploi, qui ont démissionné, qui ont demandé de démissionner à cause qu'ils n'avaient pas la maîtrise de certains outils en informatique. Ouais. Donc, pour garder votre emploi, madame, il faut aussi aller chercher l'actualisation des connaissances, puis le renouvellement des équipements.
Parce que ça va toujours plus vite.
Exactement.
Et plus vite.
Ouais. Pour acheter, j'étais à Home Depot la semaine passée. Je n'avais pas trouvé un rouleau de papier, puis ils m'ont dit « allez-y chercher dans l'ordinateur ».
Juste pour
acheter aussi, on a besoin d'aller.
Ouais.
Pour avoir une information sur les services publics, que ce soit du fédéral, provincial, municipal,
tout est là-dessus.
Ma chère, la maîtrise des outils en informatique est devenue incontournable pour tous les domaines de notre vie. C'est un problème très sérieux que nous avons maintenant.
Il faut s'occuper de ces exclus-là au plus vite et que nos gouvernements fasse quelque chose.
Exactement.
Merci beaucoup, c'était intéressant. On aurait pu rester avec vous. Encore une
Merci.
Fois. Olga Saraguero. Je vous rappelle qu'elle est membre du comité informatique pour tous de l'organisme Parole d'Exclus. Alors, mesdames, messieurs, toujours notre question, est-ce que les nouvelles technologies sont accessibles à tous? On est maintenant au segment, qu'en est-il des personnes âgées, de nos aînés? On parlait d'exclusion tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on va aller aussi dans ce sens-là, mais on a tout à fait la personne indiquée pour nous parler de ce sujet. C'est Magda Fusaro, elle est professeure à l'UQAM et chercheuse au CEFRIO. Bonjour, madame Fusaro.
Bonjour à vous.
Vous allez bien?
Bien, merci, oui.
Alors, les personnes âgées, nos aînés, est-ce qu'ils sont aussi exclus dans notre société au niveau du numérique?
Je dirais qu'il faut faire attention parce que la population aînée au Canada et au Québec recouvre une partie importante de la population en général et il y a au sein des aînés des réalités socio-économiques qui sont très, très diversifiées, comme vous pouvez l'imaginer. Mmh. En fait, essayons de faire trois groupes. Vous avez les aînés qui aujourd'hui, je dirais, viennent de partir à la retraite. Donc, ce sont des personnes qui sont, je dirais, assez jeunes.
Oui.
Ça va faire sourire certains de nos auditeurs, mais je les considère comme assez jeunes.
Mmh.
Ils ont eu quand même un usage, je dirais, relativement important, bien sûr en fonction de l'emploi occupé pendant leur vie active, ou dirais-je simplement en lien avec les préoccupations de la société, ils ont à tout le moins une connaissance théorique, voire pratique de ce que sont les nouvelles technologies. Je reviendrai dans un deuxième temps justement sur de quel type de technologie on parle.
D'accord. Alors ceux-là, ça va, ils ont la belle vie, ceux-là.
Ceux-là, ils sont assez à l'aise, on va dire.
D'accord.
Ils sont à tout le moins pas trop exclus.
Ok.
Vous avez le deuxième groupe, alors cela peut-être en termes de tranche d'âge, si on voulait être un peu précis, pourrait se retrouver dans une tranche d'âge qu'on qualifierait aujourd'hui entre 60 et 70 ans.
Mm-hmm.
Donc vous voyez, c'est quand même très jeune. Ensuite, vous avez le deuxième groupe que nous analysons, et c'est ce groupe-là qui nous intéresse en particulier, qui est le groupe qui n'a pas nécessairement eu à utiliser toute forme de nouvelles technologies, qui en entend parler, qui vit dans une réalité éminemment branchée. Vous le savez, le Québec et le Canada sont quand même très branchés,
oui.
Si on parle en particulier Internet, et qui, eux, se sont, au fil des années, peut-être pas habitués à certains discours, mais qui se sont dit, pour faire partie de cette société éminemment branchée, qu'est-ce que je peux faire et comment? Mais dans le comment, là, on observe, à mon avis, les premières formes d'exclusion. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas eu nécessairement les connaissances, d'une part, et ensuite les accès. Et dans les accès, bien sûr, il y a la question du coût,
oui.
La question aussi de l'intérêt et la question de la confiance. Il faut faire confiance à ces technologies et parfois, même pour des personnes de mon âge, que je tairai aujourd'hui, ou voire plus jeunes, il peut y avoir une question de confiance. Et enfin, vous avez le troisième groupe qui relève davantage de ce qu'on appelle aujourd'hui les aînés qui sont peut-être un peu plus malmenés par la vie, mais qui sont en perte d'autonomie. Et pour cela, je n'ai pas fait d'études, donc je me permettrai de ne pas en parler parce que ce sont des dimensions qui relèvent aussi du médical.
Oui,
ça n'appartient pas du tout à mon domaine de recherche ou à mes disciplines de recherche. Donc, mais c'est un groupe très important pour lequel il faut quand même penser à cette exclusion, car pour eux, elle existe aussi et de manière marquée.
Alors, pour le second groupe, puisque
voilà.
Vous êtes concentré là-dessus...
Sur le second groupe,
ouais.
Oui.
Il y a la peur avant tout, mais vous avez parlé aussi, évidemment, du côté financier. On sait très bien que ceux qui viennent prendre leur retraite, souvent, ils retournent sur le marché du travail parce qu'ils n'ont pas eu assez d'argent ou ils n'ont pas réussi à mettre de l'argent de côté. Et finalement, tout ce qu'on apprend, c'est qu'on les voit dans les grands centres, dans les magasins. Et eux, à ce moment-là, comment ils font pour s'adapter aux nouvelles technologies? Parce que, je ne sais pas, moi, dans un grand centre, on va leur dire, ben voilà, ton inventaire est sur Internet, va le chercher. Comment font ces gens-là?
Et vous avez entièrement raison. Et en plus, vous avez raison de mentionner la préoccupation des grands centres, parce que le discours est éminemment diversifié en fonction des régions du Québec, en réalité. On observe déjà une disparité au niveau de l'accès, ne serait-ce que d'Internet, par exemple. On voit l'Institut de la statistique du Québec publie ce rapport énorme qui est l'enquête québécoise sur l'accès des ménages à Internet, et on voit bien déjà qu'il y a une disparité. Mais parlons des grands centres. Pour ces personnes aînées, elles doivent effectivement, et dans le « elles doivent », il n'y a pas une obligation, mais il y a le sentiment qu'il y a cette obligation, se connecter d'une manière ou d'une autre. Comment font-elles? Si elles ont la possibilité de pouvoir compter sur un réseau familial ou un réseau de proches, ça peut être la famille, mais ça peut être des amis, assez important, elles vont d'une certaine manière bénéficier d'une forme de connaissance. Ça ne veut pas dire qu'elles auront les moyens financiers pour y avoir accès, mais elles peuvent néanmoins s'appuyer sur ce réseau.
Mmh.
Elles peuvent
le
également
petit-fils
compter...
ou la petite
le
fille.
Fils, oh, sans aller au petit-fils, on peut aller jusqu'au petit-fils et aller vers l'intergénérationnel, mais mmh. les enfants sont généralement déjà le premier, je dirais le premier point de repère.
D'accord.
Il y a d'abord donc les enfants, les petits-enfants qui deviennent une source, je dirais, étonnamment secondaire, qui peut prendre beaucoup d'importance parce mmh. qu'on veut être connecté aux petits-enfants.
Mmh.
Alors on va essayer effectivement de s'équiper.
C'est ça.
Se pose la question d'apprendre après à utiliser, mais on y reviendra si vous le voulez bien. Il y a également la question, je dirais, des centres et des réseaux communautaires. Et le milieu associatif et le milieu communautaire a mis en place depuis, je dirais, une quinzaine d'années, une réflexion sur les nouvelles technologies, les cours qui sont offerts, les formes d'aide, le réseau public des bibliothèques qui met à la disposition. Vous voyez, là, on a dans les grands centres un ensemble d'organismes qui pourraient donner accès sans que l'aîné soit obligé de défrayer le coût de la connexion, mmh. vitesse, haute vitesse, mmh. de l'installation. Et c'est assez cher de s'équiper d'un ordinateur. Et ensuite, il y a toute la question que moi j'appelle des coûts indirects, mais c'est le temps que l'on va passer à aider
oui.
notre aîné à comprendre comment ça fonctionne,
à
pouvoir utiliser sa souris. Donc, vous voyez, là, on a un autre niveau de difficulté dans l'accès, mais qui est quand même une forme d'exclusion numérique, car mmh. ce n'est pas tout le monde qui a la même prédisposition à pouvoir ou non utiliser un outil technologique quel qu'il soit. Et si vous ajoutez la complexité aujourd'hui de l'outil informatique, c'est réel. On ne peut pas présumer qu'en mettant simplement un ordinateur dans les mains d'un individu, et ce quel qu'il soit, mm-hmm. la navigation ou la convivialité soit telle qu'on peut tout savoir. Non, il faut quand même la configurer, son adresse,
alors,
courriel.
Tout à fait. Alors, en terminant, parce que le temps nous fait la guerre, parlez-moi de votre... Mais oui, c'est comme ça, c'est mon grand malheur à cette émission.
Oui.
En 60 minutes, 5 invités, c'est quelque chose.
Mais
alors,
oui.
Et c'est toujours très intéressant. Donc, on parlait de votre projet en terminant,
oui.
Les petits frères, vous avez participé à ça, racontez-nous en quelques
alors, effectivement,
minutes.
Effectivement, l'hypothèse qu'a fait l'organisme Les Petits Frères est qu'avec un iPad, en fait une tablette numérique,
oui.
Mais surtout le iPad, je ne reviendrai pas aujourd'hui, on n'aura pas le temps, il y aurait lieu peut-être de faire découvrir.
Mm-hmm.
Donc nous sommes dans une approche un peu différente qui n'est pas nécessairement de dire on va former à former ou on va aider à former, mais on veut démontrer avec un outil qu'il peut y avoir une exploration, une découverte très très intéressante
mm-hmm.
pour des aînés qui sont vraiment eux dans la deuxième et dans la troisième, puisque certains sont peut-être pas habiles, mais même sont en perte d'autonomie, cognitive à tout le moins. Et la tablette a cela de magique pour certains, y compris pour moi, je tiens à le préciser, qu'il n'y a pas la difficulté de la navigation de la souris, donc
mm-hmm.
la manutention d'un outil.
Mm-hmm.
On peut simplement, sur l'interface, qui est donc à ce moment-ci assez ergonomique, trouver des applications. Et on a trouvé, on a monté une trousse avec l'organisme, donc les petits frères, où on a fait tester des jeux, on a fait tester des applications, des outils comme Wikipédia, comme Google Earth, ou des jeux très connus comme les mots croisés, les mots cachés, pour permettre aux aînés de s'approprier la tablette à travers un ensemble d'applications plutôt ludiques et de découvertes.
Et alors ?
On n'est pas allé... C'est
formidable, c'est ça.
Oui, formidable.
Je m'attendais, je voulais.
C'est vraiment formidable.
Mais j'imagine, j'imagine. Bon, bah, écoutez.
Je dois le dire, l'engagement est réel
bon.
Et le phénomène d'émerveillement est extraordinaire,
très bien,
vraiment.
Très bien.
C'est superbe, à tout fin prête.
Merci beaucoup, Magda Fusaro. Merci
avec
infiniment.
Avec grand plaisir, à une prochaine.
Une prochaine,
au revoir.
fait toujours des papiers très touchants, très humains. Et d'ailleurs, ça lui a valu un prix. Il est journaliste à l'actualité. Le prix journaliste loisir pour La machine à briser les rêves. Et c'est Jonathan Trudel qui est avec nous aujourd'hui pour nous parler du sujet. Bonjour, Monsieur Trudel.
Oui, bonjour.
Vous allez bien?
Oui, très bien, vous?
Oui, alors vous avez écrit un papier absolument touchant qui racontait justement que vous avez adouci la vieillesse de votre grand-mère en lui donnant la possibilité de lire grâce à une tablette.
Oui, 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 c'était, oui, en fait, une tablette numérique. En fait, ma grand-mère, née en 1917, donc vieillissante, perdait l'usage progressif de la vue, mais c'était un drame pour elle, une boulimique de lecture. Donc, on a essayé toutes sortes de moyens dans sa famille pour essayer d'atténuer ce problème grandissant. On s'est rendu, entre autres, dans des boutiques spécialisées pour les non-voyants ou les malvoyants.
Mm-hmm.
On nous proposait toutes sortes de choses, mais des alternatives... Par exemple, des lampes rétroéclairées avec munies de d'outils pour agrandir, peut-être des loupes. C'était assez assez gros et ça aurait obligé ma grand-mère à s'installer à un seul endroit dans la maison. Et donc, elle était très réticente à ça.
Mm-hmm.
Bon, il y a déjà quelques années, je lui avais montré mon iPad. Moi, je me suis procuré une tablette numérique dès sa sortie.
Mm-hmm.
Puis elle n'était pas convaincue. Elle disait, à mon âge, Jonathan, j'ai 95 ans, je ne pourrais pas apprendre ça. C'est gentil, mais je ne pourrais pas. Mm-hmm. Puis à ce moment-là, je pense qu'elle n'avait pas vu l'inéluctabilité du déclin de sa vue. Et donc, quand mon père et d'autres membres de ma famille sont allés avec elle voir les alternatives, c'est-à-dire donc la lampe rétroéclairée, le mécanisme, tout ça. Et en plus, ça coûtait très cher. Là, ces lampes-là, je pense que c'était quelque chose comme 2000 $ et tout ça. Mmh. Donc, là, on a décidé de lui remontrer la tablette numérique. Et là, clairement, et pas seulement lui montrer, de l'ouvrir un livre, de lui télécharger un livre qu'elle aimait.
Oui.
Et de lui donc et aussi en essayant, j'avais lu que simplement son change au lieu d'être noir sur blanc, qu'on voit blanc sur noir, donc
uh-huh.
En éclairage nuit. Alors on lui montre ça un soir, un dimanche soir, on l'invite à souper, puis finalement je lui présente la chose en lui disant, écoute grand-maman, je pense que tu devrais au moins regarder ce que ça peut donner.
Uh-huh.
Et donc elle prend la tablette dans ses mains. En plus, j'avais augmenté la taille des caractères. C'est ce qu'on peut faire, c'est ce qui est magique avec les tablettes numériques.
Donc, tout à fait.
Et quand elle a vu ça, elle a lu tout de suite. J'ai demandé de lire les premières phrases. Elle l'a lu comme un enfant qui a pour la première fois pu lire. Elle était fébrile comme un jeune enfant à Noël, devant un cadeau de Noël.
Mmh.
Elle m'a dit, Jonathan, sauve ma vie, je vais pouvoir lire. Puis elle m'a sauté dans les bras. Et c'était spectaculaire.
Et après, vous êtes devenu un petit peu l'informaticien. Elle vous appelait tout le temps pour vous dire, bon, il faut que, comment je fais pour aller là et tout ça. Ça devait être rigolo, ça, quand même.
Oui, c'était rigolo. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, elle m'appelait au travail, elle m'appelait sur mon cellulaire. Ben oui, parce qu'elle redécouvrait le plaisir de lire. Donc, à la fois, au départ, j'étais plutôt un technicien parce que, bon, il fallait quand même qu'elle apprivoise la bête. Moi, j'ai des jeunes enfants qui l'ont apprivoisé très rapidement, donc
c'est
naturel pour les enfants.
Ils naissent avec, alors.
Ils naissent avec, exactement.
Oui,
ils jouent à des jeux, ils peuvent effleurer avec leurs doigts tout jeunes. Et la tablette tactile répond bien à leur manœuvre. Ma grand-mère, évidemment, avait les doigts de plus en plus durs, qui étaient durcis, donc c'était plus difficile pour elle de s'adapter au côté tactile.
Mm-hmm.
Et parfois, en plus, elle avait, c'est bête, mais elle avait, évidemment, on lui avait procuré la toute dernière génération des tablettes, et moi, j'avais la première. Il y a des distinctions. Des fois, elle me disait, quand je touche, je change d'application. Puis là, je disais, mais je pensais qu'elle était un peu gâteuse. Je disais, non, c'est impossible, grand-maman, c'est impossible. Et finalement, je finis par l'avoir chez elle, tout ça. Puis effectivement, quand on met trois doigts dans les dernière génération de tablettes, on change d'application. Donc, elle avait raison.
Elle avait complètement raison. et alors, donc, c'était une folle de Proust. Elle s'est remise à lire tous ses classiques.
Puis même des nouveautés.
Des
nouveautés aussi. Donc, je me suis muté un peu en libraire pour elle. Donc, elle était, entre autres, à un moment donné, une biographie de la reine d'Angleterre qu'elle avait. Quand la reine d'Angleterre, je pense qu'elle a commencé son règne dans les années 50, ma grand-mère, elle était déjà dans la trentaine et avancée, je crois. Donc, elle l'avait bien connue. Donc, évidemment, tout ce qui était historique pour elle, c'est. Je ne sais pas combien de biographies je lui ai téléchargées. Mais aussi des romans plus contemporains, même des polars. Donc c'était.
Alors vous l'avez, j'ai trouvé ça très beau dans ce que vous décrivez dans votre article. Vous avez adouci ma vieillesse. Elle a dit, tu as adouci ma vieillesse. C'est magnifique ça. Pierrette qui a dit ça à votre grand-mère.
Oui, c'est ça. En fait, l'automne dernier, puis on était dans un souper de famille chez moi, puis. Justement, elle est venue sur le sujet, sa passion de la lecture, puis elle a sorti sa tablette et c'était effectivement ça qu'elle a dit.
Mais c'est touchant.
C'était quelques minutes avant, pas quelques minutes, qu'est-ce que je raconte, quelques mois avant sa mort, donc
voilà. C'est beau ça. Merci beaucoup, Jonathan Trudel.
Mais merci de l'invitation.
Au revoir. Merci à toute mon équipe, puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.